Donc, la semaine passée, on a fait quelque chose de... on a fait un survol. Je me suis arrêté sur quelques mots. On va regarder ensemble les premiers versets encore. On va faire un court résumé et puis on va regarder quelques passages. On va lire d'abord les 8 premiers versets. On va faire l'étude sur l'Épître aux Philippiens dans les premières semaines. On sait que c'est de Rome que Paul a écrit cet épître. Il était emprisonné. Et ici, il dit, Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 1, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » C'est-à-dire depuis le premier jour où j'étais à Philippe, vous avez été des couvriers avec moi, et même si je ne suis plus là, eh bien, même si le Seigneur venait me chercher, je suis persuadé que vous poursuivriez l'œuvre que nous avons commencée ensemble. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, quelle humilité de la part de Paul. Il n'est pas en train de dire, écoutez, je suis persuadé que l'œuvre que moi j'ai commencée en vous, il remet toutes choses, tous les mérites reviennent au Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Lorsque Jésus reviendra, lorsque nous serons appelés à régner avec lui, il est juste que je pense ainsi de vous tous. Je ne me trompe pas, frère, quand je parle ainsi, c'est ce qu'il dit ici. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et dans quelques semaines, on verra qu'est-ce que c'est la tendresse de Jésus-Christ. C'est une tendresse que Dieu va accorder à ses enfants en Jésus-Christ. C'est une belle parole, n'est-ce pas? Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, souvent nous essayons de regarder comment Jésus a vécu et pour nous, dans notre intelligence limitée, nous nous disons souvent qu'il nous est impossible d'y arriver. Et Seigneur, ce matin, eh bien, tu nous rappelles, Seigneur, que si nous marchons comme Christ a marché, tu nous appelles à marcher comme Christ a marché. Mais Seigneur, ce matin, nous allons prendre comme modèle la personne de Jésus-Christ parce que c'est toi qui l'as formé, c'est toi qui l'as amené à cette maturité. C'est toi qui l'as amené à cette connaissance, Seigneur, de la personne de Jésus-Christ. Paul, un être humain, comme nous, Seigneur, qui était capable d'écrire cette lettre au moment où, Seigneur, il était isolé du monde, du milieu chrétien, au moment où il était isolé des frères et sœurs en Christ, eh bien, Seigneur, il est capable, lui qui se retrouve dans une prison, capable d'encourager les frères et sœurs en Christ, capable de les exhorter, Seigneur, à poursuivre l'œuvre à laquelle tu nous as tous appelés, de proclamer, Seigneur, l'Évangile, qui est la bonne nouvelle qui concerne la vie éternelle. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, te remettre ce moment, Seigneur, de méditation, ce message, afin que, Seigneur, nous puissions nous appuyer sur toi en toutes choses, que nous puissions avoir la certitude que tu nous as parlé, que tu nous as fortifié, que tu nous as encouragé, que tu nous as peut-être repris aussi, Seigneur, si c'est le cas. Mais Seigneur, nous voulons sortir de ce lieu en ayant l'assurance que tu nous as tous visités sans exception et que nous en sortons grandis. Seigneur, je te demande ton aide, je te demande l'aide de ton Saint-Esprit, afin qu'à travers ma bouche, Seigneur, ce soit tes paroles qui soient proclamées. Amen. Amen. Alors, la semaine passée, on avait vu que pendant son emprisonnement, Paul va passer son temps à écrire des lettres aux églises qu'il a implantées lors de ses voyages. On avait dit qu'il va écrire aux chrétiens de Galate, il va écrire aux chrétiens d'Éphèse, il va écrire aux chrétiens de Corinthe, et bien sûr, il va écrire aux chrétiens de Philippe. Et la semaine dernière, on a dit que cette lettre avait été écrite environ 10 ans après que cette église ait vu le jour, et dès le début, la nature personnelle de cette lettre est évidente. Si vous regardez dans les autres lettres que Paul a écrites, eh bien, il énumère ses lettres de créance, Il va affirmer la position qu'il occupe au sein de l'Église. Il va dire « Je suis un apôtre ». Il va énumérer ses lettres de créance, pardon. Il va ajouter aussi habituellement pourquoi il a l'autorité d'écrire, pourquoi il prend cette autorité d'écrire. Et pourquoi ceux qui vont la lire ont le devoir de l'écouter. Mais ici, il n'agit pas comme cela dans cette lettre qu'il adresse aux Philippiens parce qu'il sait que ce n'est pas nécessaire. Et frères et sœurs, quand on voit la teneur de la lettre à l'épître aux Corinthiens, qui avaient tous les dons, mais qu'avant tous les dons qu'ils avaient, ils oubliaient de proclamer l'Évangile. Il va leur écrire une lettre. Il va leur faire réaliser que ce n'est pas parce qu'ils ont tous les dons qu'ils sont épargnés de baigner dans le péché, souvent d'être un plus mauvais témoignage dans l'Église que dans le monde. Mais ici, et les Philippiens, écoutez, il y a trois lettres qu'il écrit aux Philippiens, on en a deux, il y en a une qui s'est égarée, mais on voit que Paul, finalement, il a un fardeau incroyable quand même pour les Corinthiens. Et il leur dit à quelque part, écoutez, si vous ne vous replacez pas quand je vais y aller, je vais peut-être être dur avec vous. Pourquoi? Parce que c'est votre salut qui m'importe. Pourquoi? Parce que c'est aussi le nom de Jésus-Christ qui est important. Pourquoi? Parce que c'est la réputation de Dieu que vous jouez à travers tout ce que vous faites. Et finalement, on se rappellera une chose, on va le voir dans les semaines qui viennent. Paul est abandonné de tous, à tel point qu'il y a des gens qui ne savent même pas où il se trouve, emprisonné. Mais il peut compter sur le soutien des Philippiens. Merveilleux, n'est-ce pas? Il peut compter sur cette Église. Et il y a vraiment une relation toute particulière avec l'Église de Philippe. Paul n'avait pas besoin d'afficher son autorité et de demander qu'il l'écoute parce qu'il connaissait la disposition de cœur des chrétiens de Philippe. Parmi toutes les Églises, c'était celle avec laquelle Paul était la plus proche. Et pendant des années, l'Église l'avait soutenu dans l'œuvre et il va leur écrire. Non pas comme un apôtre qui s'adresse à des membres d'une église, mais comme un ami qui s'adresse à des amis, à des compagnons d'œuvre. Et l'église était bien établie, comme on le laisse entendre l'introduction ici. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas seulement à tous les saints, il dit aussi, j'adresse cette lettre aux évêques et aux diacres. Alors, j'aimerais simplement ouvrir une petite parenthèse ici. Il y a des églises un petit peu en Belgique qui commencent à nommer des évêques, ou qu'il y a des gens qui s'autoproclament comme étant des évêques. Mais le mot évêque dans les Écritures, ici, dans le Nouveau Testament, c'est simplement synonyme d'ancien. Et malheureusement, il y a des gens qui se proclament évêques pour ne pas avoir de compte à rendre à personne et prendre l'autorité sur les anciens et sur les diacres. Et c'est malheureux parce que ça ne correspond pas, finalement, à l'enseignement biblique. Un évêque, dans la parole de Dieu, c'est un ancien. Et l'ancien et autant les diacres, eh bien, ont des comptes à rendre à l'Église et sont redevables les uns les autres comme n'importe quel membre de l'Église. Alors, c'est important que je vous le dise, parce que ça me vient aux oreilles, les gens me posent des questions, est-ce que c'est biblique que l'évêque dirige les anciens, dirige l'Église, n'ait pas de compte à rendre à personne, et on doit être prudent face à tout ça, parce que nulle part dans les Écritures, on nous dit que ça doit être le cas. Un évêque, c'est synonyme simplement d'un ancien dans l'Église, ou d'un pasteur, si vous préférez. C'était une lettre personnelle que Paul adresse à ses amis, et il se présente à eux comme étant esclaves de Jésus-Christ. La semaine passée, j'ai parlé du mot esclave, j'ai parlé de certaines choses qu'on va revoir aujourd'hui, mais je vais être un petit peu plus spécifique dans ce que je vais dire ce matin. Cette semaine passée, on a brossé un tableau, on a vu un petit peu finalement les quatre chapitres rapidement, le contenu, et un petit peu laisser entrevoir ce qu'on verrait dans les semaines qui viennent. Mais ce qui est intéressant, en faisant quelques recherches, j'ai vu que Paul se présentait comme esclave de Jésus-Christ. Il dit serviteur, mais le mot serviteur dans la Bible, qui est le même mot que doulos, c'est-à-dire comme esclave, eh bien, Paul, c'est pas ce mot-là que Paul va prendre pour parler ici. Dans cette lettre, Paul, il se présente pas comme un apôtre ni comme étant un serviteur. Il n'utilise pas ces mots. Il emploie plutôt le mot doulos, qui veut dire plus qu'un serviteur. Il signifie un esclave qui est soumis à son maître. Et les Grecs ne pouvaient tolérer que quelqu'un utilise ce mot pour lui-même. Et pour les rabbins juifs, dire que quelqu'un c'était un esclave, c'était un des mots les plus insultants que vous pouviez lui dire. Autant chez les Grecs, autant, c'est-à-dire les Grecs, les non-chrétiens, autant chez les rabbins juifs. Et pourtant, Paul va délibérément et fièrement dire qu'il est un esclave, non pas du péché, mais de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui est soumis et quelqu'un qui obéit à son maître. Et aussi pour moi, en tout cas, c'est une forme d'humilité, c'est vraiment dans un esprit d'humilité que Paul présente cette lettre. De dire, écoutez, moi, je suis votre serviteur, mais en réalité, je suis l'esclave de tous. Moi, mon exemple, c'est Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas venu pour être servi, moi, je ne suis pas venu non plus pour être servi. Si Jésus-Christ est venu non pas pour être servi, mais pour servir, moi aussi je viens dans l'Église pour servir. Je viens me rendre je me mets à votre disposition. Parce que ça fait partie de l'appel que Christ a placé sur ma vie. Et frères et sœurs, la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que cet appel que Christ avait placé sur la vie de Paul, est-ce que c'était réservé uniquement à lui? Est-ce que nous ne sommes pas tous appelés en Jésus-Christ à être disponibles pour venir en aide aux frères et sœurs en Jésus-Christ, pour être des serviteurs les uns les autres, pour être capables de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, pour être capable de voir, avec cette compassion qui animait l'apôtre Paul, d'être capable de voir chez les autres ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin d'être encouragés, ceux qui ont besoin d'être réconfortés. Si au début de sa lettre, il se décrit comme étant lui-même un esclave, regardez au verset 1 de quelle façon il aborde les destinataires de cette lettre à Philippe. Il adresse cette lettre à tous les saints en Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans certaines religions, ceux qui sont saints, ce sont ceux que l'on retrouve sur certaines façades de maisons ou à l'intérieur de grandes cathédrales représentées par des statues que les gens sont invités à vénérer et qui sont morts depuis un certain temps. Mais les saints ici, à qui Paul écrivait, n'étaient pas des saints dans le sens de ce mot. Les saints qui se trouvaient à Philippe étaient des gens ordinaires comme vous et moi qu'il avait côtoyé à tous les jours. Et dans la Bible, le mot saint est utilisé pour faire référence à tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Le mot saint en grec signifie littéralement « mis à part par Dieu », mais plus que ça, « mis à part par Dieu dans un but particulier ». Vous êtes des saints en Jésus-Christ, vous avez été mis à part, retirés du monde, vous avez été placés dans un autre royaume, dans un but particulier. Quel est ce but, frères et sœurs? Avoir une bonne communion fraternelle ensemble? Ça va découler du but. C'est d'annoncer le message qui fait votre joie, qui fait votre paix. Est-ce que vous savez qu'on nous cache dans certains pays le nombre de suicides qu'il y a pour ne pas apeurer les gens et faire en sorte que ça ne fasse pas un effet d'enchaînement? Est-ce que vous savez qu'en Belgique, vous êtes un des pays où il y a le plus grand taux de suicide parmi nos jeunes? Je pense qu'on occupe la pole position avec le Québec. Et vous, en tant que Belge, si vous descendiez au Québec, vous regardiez dans quelle abondance nos jeunes vivent, vous vous demanderiez, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il ne leur manque rien. Ils ont la voiture, c'est comme dans les films américains. Ils ont la voiture, ils ont la piscine, ils ont la maison, ils ont le chalet. Ils n'ont pas à se préoccuper de rien, maman et papa travaillent. Maman et papa pourvoient avoir leurs besoins, pourvoient leurs études. Ils peuvent porter les vêtements de marque qu'ils veulent, c'est jamais trop cher pour papa et maman. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Mais ils manquent de l'essentiel, ils n'ont pas la personne de Jésus-Christ. Ils n'ont aucune espérance devant eux. Surtout qu'on leur enseigne dans nos écoles qu'ils descendent du singe ou qu'ils sont le fruit des Big Bang. Ce n'est pas valorisant pour une personne humaine de penser que notre ancêtre était un mangeur de bananes. Ce n'est pas valorisant. Et ça n'encourage pas à poursuivre quand on vit les épreuves. Et heureusement que nous, en tant que chrétiens, on sait que par la foi, Dieu, c'est notre Créateur, Dieu, c'est notre Sauveur, Dieu, c'est notre Rédempteur en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, il nous a retirés du monde, il nous a mis à part pour participer à son œuvre. Le royaume de Dieu n'est pas limité en superficie. Dieu veut jour après jour. Quelqu'un priait dans sa prière tantôt, Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Et tous ceux qui se repentent, qui se convertissent, participe à l'accroissement, à la progression du royaume de Dieu. Le mot « saint », je le répète, ça signifie « mis à part dans un but particulier ». Ainsi donc, les gens saints sont des gens ordinaires chez qui quelque chose d'extraordinaire est survenu dans leur vie. Frères et sœurs, le Seigneur ne cherche pas des gens extraordinaires, et heureusement que ce n'est pas ses critères d'embauche. Il ne cherche pas des gens qui ont un quotient intellectuel le plus élevé. Il dit, j'ai pris les plus faibles. Vous faites partie des plus faibles. Et Dieu, ce n'est pas au quotient intellectuel qui se base. C'est à la disposition du cœur. Ce sont des gens ordinaires qui ont établi des liens avec un sauveur extraordinaire parce qu'ils, un jour, ils ont entendu annoncer l'Évangile et ils ont compris jusqu'à quel point Dieu les aimait. Il a donné sa vie pour eux. Et ce sont des gens ordinaires qui ont compris que par sa mort, le Christ a obtenu le pardon de ses péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Qui a la conviction que Jésus l'aime ici dans ce lieu ce matin? En tant que chrétiens, vous et moi, nous sommes des saints. On n'a pas l'auréole, et gloire à Dieu, on ne l'est pas. Est-ce qu'il y aurait d'aveugler beaucoup de personnes? Mais nous sommes des saints. Lorsque nous sommes nés dans la famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous avons reçu automatiquement ce titre. Et à partir de ce moment-là, chacun de nous a été mis à part par Dieu pour un but particulier. Frères et sœurs, est-ce que ça ne vous stimule pas dans votre foi de savoir que le mot « saint » ça signifie que j'avais été mis à part dans un but bien particulier? Est-ce que ça ne provoque pas en vous une ambition de vous investir dans le royaume de Dieu? Dire, écoutez, moi je dis je suis un saint, je viens à l'église le dimanche matin, je viens chanter, bon, je viens rendre témoignage, je viens louer le Seigneur, j'écoute la prédication, je m'en vais, je suis un saint Jésus-Christ. Mais quand on rentre dans ce lieu et on se dit, Seigneur, je vais te louer ce matin parce que tu as fait de moi un saint en Jésus-Christ, tu m'as mis à part, tu m'as sorti du monde pour me remplir dans ton royaume, tu m'as mis à part, Seigneur, dans un but particulier. Seigneur, ça veut dire que tu as un appel pour chaque personne qui est saint en Jésus-Christ. Ça veut dire, Seigneur, que le mot saint, la vie chrétienne, ce n'est pas juste une théorie. Ça veut dire, Seigneur, que tu m'as appelé à quelque chose, même si je suis incompétent, même si je ne suis pas qualifié, toi, tu vas me qualifier en Jésus-Christ, parce que lui est compétent pour agir, pour faire accomplir l'œuvre que tu as prévue pour moi. Et c'est pour ça qu'on doit faire confiance au Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à faire confiance au Seigneur, parce que dans mon cœur, et je lis les Écritures, vous avez été mis à part dans un but particulier pour participer à une œuvre que Dieu vous a réservée à vous. Là, il vous a placé. Il est important de remarquer dans ce verset que Paul affirme que les chrétiens sont différents lorsqu'il fait référence aux chrétiens de Philippe. Il s'adresse à tous les saints en Jésus-Christ. C'est une expression que Paul utilise fréquemment dans ses lettres, c'est vrai, mais être en Christ ou croire en Christ, c'était clairement pour Paul l'essence même du christianisme. Frères et sœurs, si je vous donnais un papier ce matin, je vous demandais, dites-moi ce que c'est qu'être en Christ. Dites-moi ce que c'est qu'être uni en Christ. Vous savez que ça peut faire toute la différence entre quelqu'un qui va rester assis dimanche, pendant toute la semaine, il ne fait rien, et à partir du moment où il a compris ça, c'est quelqu'un qui se lève, tu n'es plus capable de l'arrêter, et il va, il a compris sa mission, il a compris pourquoi il a été mis à part, parce que Dieu l'a placé sur cette terre dans un but bien particulier avant de le rappeler à lui. Être uni en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça signifie pour nous ce matin? Lorsqu'un homme et une femme sont unis par les liens du mariage, ils ne font plus qu'un. Être uni en Jésus-Christ, c'est que nous ne faisons plus qu'un en lui. Ça signifie quoi? Il y en a un des deux qui disparaît dans l'autre. Et c'est Jésus qui prend toute la place dans notre vie. Ça veut dire que c'est lui qui dirige nos pensées, qui dirige nos paroles, qui dirige notre conduite. Et il le fait comment? Et il est capable de le faire comment? Parce qu'on lit ses Écritures et qu'on est capable de se soumettre à sa parole. Parce que nous aussi, dans notre cœur, on sait que non seulement on est des serviteurs, mais aussi qu'on est des esclaves de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a été mis à part, non pas pour continuer à être le maître de notre vie, mais à se tourner vers un nouveau maître, à se tourner vers un sauveur merveilleux, vers un nouveau Seigneur qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Être uni en Jésus-Christ, c'est de vivre une relation étroite et intense avec lui. Et on va voir au fil des chapitres ici des Écritures que c'est ce qui faisait la joie de Paul. C'est un élément qui faisait la joie de Paul. Frères et sœurs, quand vous êtes unis en Jésus-Christ, ça signifie que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut vous voiler votre joie quand vous êtes remplis. Et on a un Dieu d'amour et l'amour ne force pas. Dieu ne nous force pas à le suivre. Il peut provoquer des choses, mais il ne nous force pas à le suivre. Et à travers ce qu'il accomplit à la croix, il nous rappelle qu'il mérite pourtant de prendre toute la place qui lui revient. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que Dieu occupe la place qui lui revient dans votre vie? Lorsque Paul parle du chrétien qui est en Christ, il parle de quelqu'un qui vit en étant uni à Jésus-Christ, comme l'oiseau qui vit dans les airs, comme le poisson qui vit dans l'eau, ou comme les racines d'un arbre doivent se trouver dans la terre si cet arbre veut espérer demeurer en vie et produire des fruits. Être en Christ, c'est d'être dans... C'est vivre comme lui le demande. Frères et sœurs, un oiseau qui se promène par terre alors qu'il est appelé à vivre dans les airs, à se percher dans le haut des arbres, s'il commence à décider par lui-même qu'il va marcher sur la pelouse, chez moi j'ai deux chats qui vont te bouffer, ça ne prendra pas 5 heures, quoi. L'oiseau, pour être à l'aise, il doit être dans son élément. Le chrétien, pour être à l'aise, il doit être uni en Jésus-Christ. Il doit vivre conformément comme Jésus a vécu. Il doit laisser le Seigneur Jésus travailler son cœur parce qu'il est conscient qu'il a été mis à part pour participer à une œuvre extraordinaire. Frères et sœurs, nous sommes des gens ordinaires et Dieu va encore faire des miracles, des prodiges et des guérisons à travers ses enfants. Est-ce que vous pensez que les guérisons et les miracles se sont arrêtés à l'Apocalypse? Quand on a eu terminé de l'écrire, Dieu va encore agir puissamment dans la vie des gens aujourd'hui à travers ses enfants. Et c'est une grâce qu'il nous accorde. Il n'y a pas besoin. Il pourrait nous dire, écoute, tu as été sauvé maintenant, assieds-toi, ne bouge pas. Attends que je te rappelle à moi, ne bouge pas, je n'ai pas besoin de toi. Quelle grâce! Quelle grâce merveilleuse! Qui dit, non, mon enfant, je t'ai sauvé, mais je ne veux pas que tu t'ennuies. J'ai une œuvre extraordinaire pour toi. Je ne veux pas que tu tournes les pouces. Je ne veux pas que tu deviennes un chômeur chrétien. Je vais te donner quelque chose. Je ne veux pas que tu chômes dans l'église. Je vais te donner quelque chose de merveilleux. Je te permets de participer à l'avancement de mon royaume. Et frères et sœurs, les trésors, quand Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, c'est quoi les trésors? C'est tout ceux qui vous auraient annoncé l'Évangile, qui n'ont peut-être pas accepté l'Évangile au moment où vous les avez parlé, mais vous avez peut-être été le premier maillon de la chaîne. Et ils seront au ciel, et ces trésors-là, ils vont vous attendre, ils vont vous serrer la main quand vous allez vous présenter devant lui, devant eux, en vous disant, je te remercie. Je te remercie d'avoir ouvert la bouche quand je me suis présenté devant toi. Merci d'avoir continué à me parler de l'Évangile, même si j'ai tout fait pour te décourager. Même si j'ai voulu te montrer que je ne voulais rien savoir, merci, parce que tu étais le premier qui a déposé cette semence de foi dans mon cœur en me partageant l'Évangile. Paul était comme ça, n'est-ce pas? Paul, c'est un grand persécuteur de l'Église. Et à un moment donné, il est frappé. Et il a rencontré le Seigneur Jésus, ça a changé sa vie. On n'est pas obligé de vivre toutes des conversions comme Paul a vécu. Le Seigneur nous connaît notre chemin, connaît notre parcours. Mais on peut tous témoigner ce matin, pour ceux qui sont nés de nouveau. Peu importe qu'on soit né dans l'Église, peu importe qu'on vient du monde, et le jour où on a rencontré Jésus-Christ, c'est un bouleversement dans nos vies. Ce bouleversement, il était radical. Parce qu'il y a un miracle. Le miracle, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Et même si on n'est pas parfait, même si on aspire à la perfection, parce que c'est ce que Paul dit, je prie pour votre perfection. Bien, le Seigneur continue son travail en nous. Être en Christ ou être uni en Christ, c'est vivre continuellement et en permanence sous l'influence de l'Esprit de Christ. C'est vivre dans un monde où en aucun instant nous nous sentons séparés de lui et où nous ressentons constamment qu'il nous protège et qu'il agit puissamment pour nous. Ainsi donc, s'il y a une chose qui suscite chez un chrétien le désir de progresser dans sa foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ et qui fera qu'il sera différent des autres, c'est qu'il a compris qu'il a été mis à part de tous les autres pour accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Amen. Quelqu'un a demandé un jour à Mère Teresa quelles étaient les qualifications que devait avoir celui ou celle qui souhaiterait travailler à ses côtés dans les rues sales et dans les rues étroites de Calcutta. Sans hésiter, elle a mentionné seulement deux choses, le désir de travailler et une attitude joyeuse. Malheureusement, ces deux qualités, particulièrement la dernière, sont difficiles à trouver dans notre monde aujourd'hui. Jetez un coup d'œil autour de vous et vous serez facilement envahis par les mauvaises nouvelles, par des visages longs et des gens écrasés par toutes sortes de fardeaux. Une grande partie de la musique que nous entendons dans ce monde, et on va sûrement le voir là-bas à Monceau-sur-Sambre, met en avant la misère et le désespoir. Vous écoutez des chansons, et quand on ne comprend pas l'anglais, on pense que ça ne nous fait rien, mais le problème, c'est que notre conscient ne le capte pas, mais notre subconscient le capte, lui. Hein. Et quand vous écoutez des paroles, c'est épouvantable que nos jeunes puissent écouter ça. On est dans un monde qui est de désespoir incroyable. Et c'est bon qu'on entre en contact avec ces gens-là. Moi, je marche le matin, et puis je fais 3 fois par semaine, je fais un parcours pour me tenir un peu en forme. Et quand je croise quelqu'un, bien, je me fais un devoir de lui dire bonjour et de lui faire un sourire. Et je continue, et puis je me dis, Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, cet homme-là peut avoir, cette femme-là a pu exprimer un sourire ce matin. Mais tu les vois avancer, souvent, ils sont dans un état, ils sont ailleurs, quoi. Ils sont ailleurs. Et maintenant, là, il y en a un, bien, j'ai commencé à marcher avec lui. On commence à parler ensemble. Et le jour où il va me demander ce que je fais dans ma vie, je vais lui raconter. De A à Z, ce que je fais. Pourquoi je suis en Belgique? Des occasions que Dieu me met à part dans ce coin-là du pays de la Belgique pour pouvoir partager son évangile. Peut-être qu'il dira non après, peut-être qu'il sera fâché, ça, c'est pas mon problème. Il va peut-être juste changer de trottoir pour ne pas me croiser. C'est son problème. Mais moi, j'aurais fait ce que le Seigneur, j'aurais fait la part ou l'œuvre à laquelle je suis appelé. Les trophées, c'est pas nous qui les amassons, c'est le Seigneur qui les amasse, les trophées. Ça, c'est encourageant. Et de se rappeler que quand on prêche l'Évangile, c'est pas vous que les gens rejettent. C'est Jésus. Ça m'encourage, ça. Moi, j'annonce l'Évangile à quelqu'un, je parle pas de le fâcher. Je suis triste, parce que je sais ce qui l'attend. Mais je me dis, c'est pas moi qui ai rejeté, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a rejeté. C'est la personne de Jésus. Une grande partie de la musique que nous entendons dans ce monde met en avant la misère, les désespoirs, les journaux parlent et écrits par de tragédies, de catastrophes, de pertes d'emploi, de guerres, d'accidents horribles survenus dans le monde. On est rendu à une époque où il faut presque prendre un Valium pour écouter les nouvelles le soir, pour ne pas déprimer autant que les nouvelles déprimantes qu'on nous donne. Hein. Sans parler de ce que véhiculent les films. Même ceux qui annoncent la météo concentrent notre attention. Et j'ai remarqué ça. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois ça arrive qu'on prend la météo. Hein. Alors, ils concentrent notre attention sur les risques de tempête, les risques de sécheresse et les risques d'inondation qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde. Avez-vous remarqué comment ils s'expriment? Aujourd'hui, le ciel sera partiellement couvert avec 20% de chances de pluie. Jamais ils vont nous dire, aujourd'hui, nous bénéficierons du ciel, du soleil pendant 80% de la journée. Vous imaginez? C'est vrai, c'est très négatif finalement. Aujourd'hui, nous allons bénéficier, qu'est-ce qu'ils disent? Le ciel sera partiellement couvert avec 20% de chances de pluie. Alors, au lieu de nous parler qu'il reste 80%, il y a quoi dans ce 80%-là? Bien, il n'y aura pas de nuages, puis le soleil va nous éclairer, tout ça fait du bien, quoi. Hein? On a besoin de la vitamine D, non? Mais on nous parle de sécheresse, on nous parle d'inondation, de risque de ci, de risque de ça. Et là, ton mari, tu quittes le salon, tu as fini les nouvelles, ta femme ou ton mari dit, puis les nouvelles, il ne fera pas beau demain. 20% qui ne fera pas beau demain. Mais le 80, on oublie de nous en parler. Frères et sœurs, les gens sont dans une déprime totale. Et ça se répercute à la télévision, ça se répercute dans les journaux. Vous savez ce qu'on devrait faire en 2014? On devrait tous mettre un certain montant d'argent pour mettre sur pied un journal local et prendre la décision qu'il ne va avoir que des bonnes nouvelles dans ce journal. Vous êtes prêts à perdre de l'argent, oui? Parce qu'on ne tiendra pas le coup 6 mois. Les gens se nourrissent de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que ça leur permet de réaliser que c'est moins pire pour eux. Ils se réconfortent dans les moins pires et non pas dans les meilleurs. On est comme ça. Notre monde est dans un endroit où il y a de moins en moins de gens joyeux. Et comment l'apôtre Paul, maintenant on l'a vu la semaine passée, mais j'ai eu des questions par rapport à ça, et j'aimerais être un petit peu plus spécifique dans ce que je vais dire maintenant. Comment l'apôtre Paul pouvait-il être joyeux au milieu de tant de difficultés alors qu'il se trouvait en prison? C'est une bonne question, ça. C'est pas une bonne question, ou non? Merci. Cela était possible parce qu'il avait fait le choix d'être joyeux. Car voyez-vous, la vie remplie est vraiment un acte de volonté, c'est-à-dire une décision qui est prise au plus profond de nous-mêmes. C'est une attitude que nous adoptons et non pas un sentiment qui vient et qui part, comme le bonheur et la tristesse. Il en est de même que de la vie chrétienne. Je l'ai dit à quelques reprises ici en 14 ans, la vie chrétienne n'est pas une question de sentiment. C'est une question de foi. Il y a malheureusement beaucoup trop de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne par les sentiments. Et vous savez ce que ça donne? Le dimanche, ils arrivent à l'église, ils sont là. Ils ont entendu le culte. Ça, bon, il y en a qui tapent plus des mains qu'ici, mais ça tapait des mains, ça a crié, ça a chanté, ça... Oups, thermomètre a monté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et vite le dimanche matin pour qu'on soit mort. Ce sont des gens qui vivent par les sentiments. Mais la parole est claire. Le juste vivra par la foi et pour la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Par la foi, mais Paul rajoute quelque chose d'important dans Romains. Et pour la foi. Il marche par la foi, mais il va vivre en fonction de ce qu'il croit. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Les pratiques, Paul. Être joyeux, c'est un choix que nous faisons. Pour paraphraser le prophète, un bateau navigue à l'est, un autre navigue à l'ouest, peu importe comment le vent souffle. C'est la façon que vous placez votre voile et pas le vent qui détermine le chemin que nous prenons. Frères et sœurs, nous décidons quel chemin nous prenons dans la vie. Soit celui de la joie, c'est-à-dire de l'optimisme, on en a parlé la semaine passée avec l'apôtre Paul, ou soit celui du pessimisme. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 4:4. C'était notre passage d'introduction. Il demande à ses lecteurs de suivre son exemple et de choisir d'être joyeux en disant « Soyez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, soyez toujours joyeux. Pourquoi ne laissez pas les pessimismes vous voler votre joie? Ne laissez pas les gens qui cherchent toutes sortes d'excuses à ne pas vivre comme le Seigneur nous demande de vivre, venir vous freiner, venir vous mettre des bâtons dans les roues pour vous voler votre joie. Ne permettez pas des gens qui se soi-disant qui se disent frères et sœurs venir remettre en doute les promesses qui sont dans la parole pour vous voler votre joie. Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et j'espère que ce matin, vous avez tous la certitude de savoir en qui vous avez cru. L'évangéliste Dwight L. Moody, qui a vécu au 19e siècle, a écrit ceci. Ce sont les choses qui se passent autour de moi qui provoquent le bonheur, et ce sont les circonstances qui vont venir gâcher ce bonheur. Mais la joie se fraye un chemin à travers la difficulté, elle se faufile à travers l'obscurité. La joie trouve toujours son chemin, autant la nuit que le jour. La joie, elle résiste aux persécutions et à l'opposition. S'il y a quelqu'un qui a été persécuté, c'est bien Dwight L. Moody au 19e siècle. Il dit, la joie, c'est une fontaine qui bouillonne dans le cœur, c'est une fontaine cachée que le monde ne peut voir et qu'il ne connaît pas. Et le Seigneur donne à ses enfants une joie continuelle lorsqu'ils choisissent de marcher dans l'obéissance du Seigneur. Tourne avec moi dans Actes, chapitre 5, verset 32. Je vais répéter ce que je viens de lire ici. C'est une fontaine qui bouillonne dans le cœur, une fontaine cachée que le monde ne peut voir et qu'il ne connaît pas. Et le Seigneur donne à ses enfants une joie continuelle. À quelles conditions? Lorsqu'ils choisissent de marcher dans l'obéissance au Seigneur. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui se contentent de dire que quand on reçoit Jésus-Christ, eh bien, on reçoit le Saint-Esprit. Mais Paul ici, il y a quelqu'un qui est en train de mettre les pendules à l'heure ici. C'est Pierre. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit. Ils sont persécutés, là. Hein? Actes chapitre 5, j'avais dit 17, c'est ça? 32. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux, pas qui ont accepté Jésus, pas à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il fait juste élever la marche un petit peu. À ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, c'est pour ça, tantôt, je vous disais, si vous voulez avoir la joie du Seigneur dans votre cœur, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, on doit marcher dans l'obéissance au Seigneur. On doit apprendre à ne pas faire de compromis dans notre vie chrétienne pour être en mesure de garder cette joie qui vient du Seigneur. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Une attitude joyeuse n'a rien à voir avec l'âge, la profession, le lieu où vous habitez, l'éducation que vous avez reçue, votre statut civil ou social, ni sur le fait d'être bien vu par les gens, ni sur les circonstances. Pour le chrétien, la joie est une force qui puise dans les promesses de Dieu. Quand vous regardez tout ce qu'a vécu Néhémie et qu'il pouvait encore dire au chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie a été appelé aussi à participer à une œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Reconstruire les murailles de Jérusalem. Il y a eu des faux juifs qui ont joué dans le dos. Il y a eu des copains du gouverneur qui ont tout fait pour démoraliser les gens, pour le démoraliser. Mais Néhémie avait une conviction dans son cœur. C'est qu'il était appelé à monter les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites par les armées ennemies. Et il était attristé de voir la condition du mur. Il était attristé de voir la condition des membres du peuple de Dieu. Et il a poursuivi son chemin, il a poursuivi l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Pourquoi? Envers et contre tous. Si vous lisez le livre de Néhémie, hein, jusqu'à la prière qu'il fait, mais juste avant, il n'y a rien d'encourageant qui arrive dans sa vie, à part que l'empereur lui permet d'aller là à Jérusalem où Dieu l'appelle pour construire ses murs. Mais il arrive là-bas et finalement les murs sont encore pires que ce qu'il pensait. Les gens sont éparpillés, doivent rassembler la masse, faire une unité à travers ce peuple pour qu'ils puissent participer à la construction de ce mur. Ils voient la stratégie des ennemis de Dieu et ils prient. Et si vous voulez avoir une belle prière, vous allez dans le livre de Néhémie, c'est la prière la plus longue de toutes les Écritures. Il est capable d'exprimer sa joie au Seigneur. Il est capable de rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il réalise finalement que ce n'est pas lui qui a construit le mur. C'est Dieu à travers lui qui a permis que le mur soit construit. Il a été simplement un instrument dans les mains de Dieu. Et au chapitre 8, après avoir passé par ses souffrances, surtout le 3 et le 4, chapitre 3 et 4, au chapitre 8, il est capable de dire, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Comment a-t-il pu dire une phrase semblable? Comment Paul a-t-il pu dire une chose semblable? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient été mis à part par Dieu pour répondre à un appel particulier et que Dieu travaillerait à travers eux. Et ils avaient pris la décision d'être joyeux. Quand vous regardez tout ce que... on va changer. Deuxièmement, la décision de Paul découlait aussi du fait qu'il avait pris la décision de placer sa confiance en Dieu. Frères et sœurs, je pense que c'est peut-être plus facile pour les jeunes qui acceptent le Seigneur très jeunes de placer leur confiance en Jésus. Mais quand vous avez quelqu'un qui est adulte, qui a un vécu dans le monde et qui vient au Seigneur, c'est peut-être plus difficile pour lui de commencer à tout laisser entre les mains du Seigneur et dire « Seigneur, c'est terminé, j'arrête de faire confiance en mes capacités, en mes possibilités et je te fais confiance. » Frères et sœurs, Paul avait une foi profonde que Dieu était à l'œuvre, qu'il était en plein contrôle, qu'il était au milieu de tout ce qui lui était arrivé, qu'il était au milieu de tout ce qui lui arrivait, et qu'il serait au milieu de tout ce qui était pour lui arriver. Paul en avait une conviction. C'est-à-dire quoi? Un passage qu'on a lu tantôt, je ne l'ai peut-être pas lu dans les psaumes. En aucun temps, Dieu, il sait que Dieu, il a la conviction dans son cœur que Dieu va lui faire défaut. En aucun temps dans son cœur, il pense que Dieu va l'abandonner puisqu'il marche dans les voies de Dieu. En aucun temps, il peut penser que le Saint-Esprit va le quitter puisqu'il obéit à la parole. Il s'est rendu disponible suite à l'appel que Dieu lui a placé. Si une épreuve survenait dans sa vie, il avait suffisamment la foi pour croire que Dieu lui le permettait dans un but particulier, qui bénéficierait à Paul et qui, d'une certaine façon, favoriserait l'avancement du royaume de Dieu. Frères et sœurs, je vais répéter parce que souvent, quand il arrive une épreuve dans la vie de quelqu'un, on dit c'est peut-être parce qu'il y a du péché, c'est peut-être parce qu'il a fait ci, qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il a fait ça. Regardez la conviction de Paul. Si une épreuve survenait dans sa vie, il avait suffisamment la foi pour croire que Dieu le permettait dans un but particulier qui bénéficierait à Paul et d'une certaine façon favoriserait l'avancement du royaume de Dieu. Et c'était quoi ce but particulier? Pourquoi Dieu permet des épreuves dans la vie de ses enfants? Pour se glorifier. Pour se glorifier. Quand quelqu'un est malade, Quand Dieu guérit, Dieu se glorifie à travers son enfant. Et là, son enfant qui est convaincu que Dieu l'a guéri, que Dieu accomplit un miracle dans sa vie, quand l'occasion se présente, il va le témoigner. Et encore une fois, Dieu est glorifié. Et Paul avait cette conviction que peu importe ce qui survenait dans sa vie, c'était dans un but bien particulier et que Dieu se glorifie. Si les épreuves s'acharnaient sur Paul, il croyait que c'était uniquement parce que Dieu le permettait. Et c'est toute une autre façon de penser, hein? C'est toute une autre façon de penser. Seigneur, peu importe l'épreuve qui arrive dans ma vie, je sais que c'est parce que tu le permets. Lorsqu'il se faisait arrêter, il croyait que cela faisait partie également du plan de Dieu. Non, vous lirez le chapitre 1. Il parle du prétoire qui a entendu l'Évangile. S'ils n'avaient pas été emprisonnés, ils n'auraient pas entendu l'Évangile. Et qu'est-ce qui est important pour Paul? Pas là où il était, pas son niveau de vie. Non, que Dieu soit glorifié. Cette confiance se reflétait dans ce qu'il écrit au verset 6. Ici, chapitre 1, verset 6, lorsqu'il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et il pouvait se l'approprier pour lui. S'il est capable de le dire, s'il est capable de l'écrire, c'est parce qu'il l'a vécu. Paul, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas un théoricien. Paul, c'est quelqu'un de pratique. Je vais vous dire pourquoi je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre en vous va la rendre parfaite. Parce que c'est d'abord ce qu'il a fait dans ma vie. C'est d'abord ce qu'il est en train de faire dans ma vie. C'est pour ça que je peux vous l'enseigner. C'est pour ça que je peux vous le dire. Vous ne serez pas déçus. Parce que ce que Dieu vise pour ses enfants, c'est la perfection. Ce que Dieu vise pour ses enfants, c'est de ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est de faire en sorte d'évacuer le caractère du premier Adam qu'on a hérité de nos parents pour faire en sorte que le caractère qu'on a hérité de Christ à la nouvelle naissance puisse se développer et produire les fruits de l'Esprit. Pensez à ces mots « commencer » et « rendre parfait ». Pensez à ces deux mots comme les serre-livres dans la vie de Paul, car il avait une ferme confiance que celui qui avait commencé une bonne œuvre dans sa vie, non seulement la compléterait, mais la rendrait parfaite. Et lorsque nous vivons, frères et sœurs, avec cette conviction profonde, nous sommes beaucoup plus détendus et joyeux. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas toujours aux aguets pour savoir ce qui peut m'arriver de mal. On n'est pas toujours en train de se protéger. Comme Jérémie l'a dit si bien, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Ça nous rappelle le psaume 1. « Et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. L'arbre, il est planté près de l'eau, il est dans son élément. » Le chrétien qui est uni en Christ, il est dans son élément. Peu importe qu'il y ait une période de sécheresse, c'est-à-dire des mauvaises nouvelles. Il ne craint point. Et Jérémie dit, ne cesse de porter du fruit. Et s'il y avait quelqu'un qui était triste pendant un certain temps, c'était bien Jérémie. J'aime l'histoire de cet homme qui s'était tracassé pendant 15 ans à propos de son travail. Il avait démarré son commerce à partir de rien pour en faire une entreprise suffisamment importante. En fait, il avait une grande usine qui couvrait plusieurs hectares. Cependant, avec la croissance de l'entreprise, est venue également la réussite et les commandes de plus en plus croissantes. Chaque jour l'appelait à prendre des nouvelles responsabilités. Fatigué de vivre constamment dans l'inquiétude, dans le stress et dans la peur, il va finalement décider de remettre l'entreprise entre les mains du Seigneur. Avec un large sourire de satisfaction, je suis en train de vous raconter un fait vécu, il fait cette prière. « Seigneur Dieu, toute mon entreprise t'appartient, je te la donne. » Tous mes soucis, le stress et la peur, je m'en dégage et je le remets à ta volonté parfaite. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu deviens le propriétaire de mon entreprise. Ce soir-là, il est allé au lit beaucoup plus tôt que d'habitude, beaucoup plus tôt qu'il l'avait fait depuis qu'il avait démarré son entreprise. Et pour la première fois, il a pu dormir comme un bébé, jusqu'à ce qu'il fût réveillé au milieu de la nuit pour recevoir un appel téléphonique. Et lorsqu'il a pris le combiné, l'homme qui se trouvait au bout du fil, eh bien, criait, paniqué, « Venez vite, l'entreprise est en train de passer au feu. » Calmement, l'homme s'est habillé, il est monté dans sa voiture, il s'est rendu jusqu'à l'usine. Arrivé sur place, les mains dans les poches, il se tenait devant l'usine et regardait le feu consumer celle-ci en souriant légèrement. Et un de ses employés s'est approché de lui et lui a dit, « Pouvez-vous me dire ce qui peut vous faire sourire dans un moment aussi dramatique? Comment pouvez-vous être aussi calme? Pratiquement tout est détruit! » L'homme répondit, « Hier après-midi, j'ai remis mon entreprise à Dieu. Je lui ai dit qu'elle lui appartenait. S'il veut la brûler, c'est son droit. C'est son entreprise. » Cette façon de penser peut sembler bizarre, mais c'est en fait l'un des principes bibliques les plus importants que nous avons à apprendre à adopter, celui de faire pleinement confiance à Dieu. En d'autres mots, il nous faut apprendre à s'en remettre constamment à Dieu pour toutes choses dans nos vies. Celui qui a commencé quelque chose dans votre vie est capable de supporter la pression au quotidien et il en sortirait exactement les mêmes résultats qu'il avait prévus pour sa plus grande gloire. Peut-être que ce matin, votre commerce a besoin de brûler parce que vous êtes esclave de votre entreprise et non pas esclave de Dieu. Ou peut-être que vous avez besoin de vivre des moments difficiles dans votre travail pour vous rappeler que les choses qui sont autour de vous sont temporaires, qu'elles sont appelées à disparaître et vous ramener aux choses de Dieu qui durent éternellement. Frères et sœurs, les gens les plus joyeux et les moins stressés que je connaisse sont ceux qui, comme Paul, ont placé entièrement leur confiance en Dieu et qui ont suivi le conseil de l'auteur des Proverbes. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Rapidement, je termine avec ce qui faisait la joie de Paul, c'était le fait qu'il vivait en communion avec les autres chrétiens. Il n'y a rien de pire que d'entrer dans une église et ne pas se sentir accepté. Il n'y a rien de pire que d'entrer dans une église et de ne pas voir les gens venir autour de nous pour nous saluer, pour dire, écoute, je suis content de te voir. Faites du bien de te voir. Je suis content. On appartient au même royaume. On a la même espérance. À plusieurs reprises dans cette courte lettre, ici, Paul va exprimer son amour profond pour les chrétiens de l'église de Philippe. La relation qu'il avait avec eux lui avait apporté la joie, et ce, au milieu même des moments les plus extrêmes, les plus difficiles. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? « Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que j'ai de vous. » Verset 4, « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Versets 7 et 8, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la faiblesse, dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, ce qui se passe ici? Paul s'est rendu compte, finalement, qu'il n'était pas vraiment seul en prison. Il savait que non seulement Christ était présent avec lui, par son esprit, mais qu'il y avait des gens qui l'aimaient. En le sachant, cela lui a permis de vivre, de poursuivre, de maintenir la paix, la joie qu'il avait en Jésus-Christ. En d'autres mots, Paul permettait à l'amour de Jésus de se manifester à travers lui pour les chrétiens de Philippe. Et lorsque cela arrive, frères et sœurs, et je termine avec ça, de merveilleuses possibilités, de merveilleuses amitiés sont rendues possibles. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Bill Ibles, pasteur de l'église de Willow Creek à Chicago, dit que lorsque nous permettons à ce genre de choses de se manifester dans une église locale, lorsque nous voyons l'amour des chrétiens déborder pour les autres, les masques commencent à tomber sur les visages. Les conversations deviennent beaucoup moins superficielles. Les gens deviennent beaucoup plus ouverts. Ils partagent ce qu'ils vivent. Ils se sentent redevables les uns les autres. Une grande tendresse commence à grandir entre les membres et les gens se rencontrent aussi à l'extérieur de l'Église. Dans une Église où ce genre d'amour abonde, les gens deviennent comme des frères et sœurs dans le vrai sens du mot. Ils se réunissent pour partager ce qu'ils ont à cœur. Ils manifestent de la compassion les uns envers les autres lorsque quelqu'un traverse des difficultés ou vit un moment qui est triste dans sa vie. Les églises et les membres, où les membres puisent dans cette source d'amour, sont heureux parce qu'ils vivent en étant unis à Christ. Et frères et sœurs, quand on vit cet amour de Jésus-Christ dans nos églises, on n'a pas peur. On n'a pas peur de ce que les gens, les frères et sœurs, peuvent penser de nous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. On laisse tomber nos masques afin d'éviter de paraître meilleur chrétien qu'un autre. On se rappelle qu'on est des gens ordinaires que Dieu a appelés à une tâche bien particulière, celui de progresser à l'avancement du royaume de Dieu. Paul avait cette joie parce qu'il avait placé sa confiance dans le Seigneur. Paul avait cette joie parce qu'il a décidé, envers et contre tous, de rester joyeux parce qu'il gardait ses yeux fixés sur les promesses de Dieu, sur l'espérance qui l'attendait. Et il en parle dans chapitre 3, verset 4 de Philippiens. Et j'espère qu'on puisse lire cette épître durant cette semaine pour nous préparer à recevoir ce que Dieu prépare pour nous la semaine prochaine, mais aussi pour dire, écoute, si ça, Paul était capable de vivre, moi aussi je suis capable de le vivre. Paul, c'était pas un super chrétien, c'est quelqu'un qui a pris des super décisions. Et Dieu l'a béni. Il avait déjà averti qu'il serait persécuté, qu'il serait pourchassé, qu'il irait en prison. Mais Paul dit, je sais en qui j'ai cru. J'espère que c'est votre conviction à tous ce matin que vous savez en qui vous avez cru. Qu'il ne vous fera jamais défaut. Qu'il n'a jamais menti, que ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Amen. Invite à vous lever.